La nostalgie peut être un art de vivre. Elle fait ressurgir les bons moments de notre existence et nous permet d'oublier le reste. Et quand en plus, elle se marie avec du style, un regard décalé et politique sur le monde, beaucoup d'élégance et une bonne dose d'humour, cela donne un très bon livre. Benoît Duterte, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce livre qui m'a vraiment plu, livre pour adultes que vous publiez chez Gallimard. C'est un roman, on va dire le mot, un vrai roman, mais étonnant et fort par sa forme et par son fond. Parce que vous dites des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur la vieillesse, sur la mort, sur la fin d'un monde défiguré par la dictature du lait et du rentable. Mais aussi, vous prenez une philosophie de la légèreté, de la joie, de l'émerveillement, mais aussi de la lucidité. C'est ce qu'il y a de plus fort chez vous, c'est que vous voyez les choses avec votre regard. Alors déjà la forme, comment elle vous est venue? Parce que vous mélangez beaucoup de genres. Il y a un côté un peu sottier, on va y revenir, dans le livre. Voilà, comment vous l'avez construit ce livre?
Alors, juste toute petite parenthèse, merci pour ce que vous avez dit sur la nostalgie, parce que quelquefois les gens pensent que la nostalgie c'est triste. Mais non, la nostalgie c'est la beauté des choses qui disparaissent. Et quand on va chercher la beauté, on trouve la poésie, et d'une certaine façon c'est quelque chose qui nous rend heureux, même si c'est quelque chose de fragile qui disparaît. Vous avez tapé juste au cœur du sujet. Mais alors la forme, bien sûr, voilà, j'ai appelé ça livre d'ailleurs pour adultes, c'est-à-dire que j'avais l'idée d'un livre, un grand livre, c'est pas un très gros livre, mais dans un livre, on peut mettre toutes sortes de choses qui rentrent dans un livre, c'est-à-dire des réflexions personnelles, des réflexions, des souvenirs, des réflexions sur la vie, des essais, puis des histoires qu'on invente, des nouvelles, etc. Et ça, c'est un vieux rêve qui me poursuit depuis que j'écris, je crois, d'écrire un livre qui mêlerait un peu tout ça, mais qui mêlerait tout ça d'une façon cohérente, avec des fils conducteurs, et dans lequel, au fond, toutes ces histoires inventées, vécues, ces réflexions, se feraient écho les unes les autres. Alors voilà, c'est une forme un peu éclatée comme ça, mais j'espère, et j'ai le sentiment parfois quand je vois les réactions, que même si on peut être un tout petit peu surpris au début par les ruptures de ton, peu à peu, tout ça paraît tout naturel et se répond. Voilà.
Parce que bien sûr, il y a vos souvenirs, vos déambulations entre Étretat et les Vosges, hein, ces deux lieux de famille.
Voilà.
Il y a beaucoup de portraits. Il y a le portrait de votre mère qui est
bien
essentiel
sûr.
Et le reflet qu'elle a en vous, sur ce rire, sur la légèreté, on va y revenir.
Oui.
Par ailleurs, il y a ces nouvelles, je sais pas comment on peut les appeler, des sottis. Enfin, il y a un côté très voltairien dans ces nouvelles.
Oui, sottis, j'aime bien parce que sottis, c'est la fantaisie, c'est un peu la satire comme ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, pour certains de mes précédents romans, j'avais hésité à mettre sottis au lieu de roman.
Ouais.
Et là, donc ces trois, on peut dire ces trois grandes nouvelles qui sont au fil du livre comme ça.
Avec un personnage qui revient, cette partie récurrente. Ça m'a fait penser, alors j'ai oublié vous savez, c'est cette espèce de dessin où on voit toujours un petit personnage qui vous retrouvez, il est toujours partout. Cette Daisy, elle ressemble à ça.
Exactement, oui, comme dans les dessins de Sampé que j'adore, par exemple. Il y a toujours des petits bonbons hommes comme ça. Alors Daisy, c'est la journaliste qui effectivement fait le lien entre ces trois épisodes de fiction. Mais au fond, tout ça parle d'une même chose qui est la disparition, quoi. La disparition des êtres, ma disparition programmée un jour, j'espère le plus tard possible, la disparition du monde dans lequel j'ai grandi. Et tout ça parle de la disparition.
Oui.
Mais c'est vrai que ces trois nouvelles, elles sont une façon aussi de...
Très caustique quand même, très drôle.
De me décaler un peu, parce que je parle de choses terribles au début, notamment de la mort de ma mère, de sa maladie, d'Alzheimer, etc. Et moi, je veux pas non plus me complaire dans une chose du pathos, etc. Je veux parler de choses dures, comme ça, d'une façon très factuelle et sensible. Mais aussi, je veux m'autoriser tout d'un coup à faire de la fantaisie, à raconter une histoire qui parle un peu de la même chose, mais sur un mode beaucoup plus léger. Et je crois que ça aurait bien plu à ma mère, qui aimait beaucoup rire d'ailleurs, et qui aimait beaucoup regarder les choses avec un regard amusé.
Mais c'est vrai que vous parlez justement de la vieillesse, de la mort, sans phare et sans... Au fond, on est une sorte de pudibonderie, comme on en a peur, on masque tout ça. Je voudrais lire un passage. Il m'a fallu beaucoup d'années pour ouvrir les yeux et entrevoir cette réalité qu'on veut masquer jusque dans les maisons de retraite où s'entretient l'illusion d'une vieillesse protégée. Tout, pourtant, tient en quelques mots. Les vieux souffrent, les vieux ont peur, les vieux s'efforcent de durer et cependant sont pressés d'en finir. Les vieux ne croient plus à rien. Quelques-uns s'efforcent d'entretenir les apparences. À 90 ans passés, ils veulent montrer leur résistance, leur énergie, leur jeunesse d'esprit. Ils s'inventent même quelques projets. Puis comme les autres, ils finissent par s'effondrer, tombent dans la salle de bain, où ils se traînent encore, se cassent le col du fémur, s'abîment dans un lit, perdent le moral ou perdent la tête. Ils deviennent plus lents, plus lointains, plus vagues. Tout le monde y passe, il n'y a rien à faire, on meurt rarement heureux. Tout juste est-on parfois soulagé de mourir.
Oh, c'est un peu et... terrible comme passage.
C'est dur, mais c'est très juste. Et ça, vous montrez d'ailleurs, quand vous parlez de votre mère avec tellement de tendresse et en même temps tellement de lucidité, quand elle va s'enfoncer dans cet Alzheimer et elle est dans une maison spécialisée,
ouais.
Où les gens déambulent, hébités, se fixent sur des détails quand ils ont encore un peu d'esprit, s'obséder soit par une montre, soit par le temps, soit par vers l'ailleurs. Enfin, et c'est vrai qu'on est dans une société, on dit plus les vieux, on dit les seniors. Enfin, on veut vivre éternellement jeune avec des botox et autres. Et ça, c'est un tel leurre que c'est bien quand même aussi de le dire.
Parce que c'est aussi un livre d'une certaine façon du, bah, je vais pas dire du désenchantement, mais c'est vrai que vous savez, quand on est petit, on voit les vieilles personnes et on s'imagine que voilà, elles ont droit parce qu'elles sont arrivées à un certain âge, parce qu'elles sont à la retraite, etc. Elles ont droit à une vie protégée, merveilleuse jusqu'à la fin de leur jour, etc. Oui. Mais on se rend pas compte quand, parce qu'on est enfant, que effectivement, quand on est vieux, on a des tas de problèmes physiques, on vieillit, on a hanté par la maladie, par les problèmes médicaux, etc. Et en fait, on voit pas tout ça. Et c'est seulement quand on vieillit soi-même et quand on voit ses proches disparaître qu'on mesure que la vieillesse, c'est pas quelque chose de si extraordinaire qu'une simple retraite protégée par la société. Quoi.
Alors en même temps, ce que vous montrez aussi de la vieillesse, c'est qu'on n'est pas, au fond, elle n'est pas juste la vieillesse.
Non.
Il y en a qui vieillissent mieux, beaucoup moins. Ce que vous dites sur votre mère, qui a été une femme optimiste, volontaire, courageuse, c'est vrai que celle-là, cette maladie terrible, mais vous racontez, le livre souffle quand même sur un des personnages qui a 100 ans, que vous allez voir régulièrement à Clichy.
Vrai. C'est vrai. Boulevard de Clichy.
Boulevard Clichy. Et qui est intacte, elle a 100 ans, elle est petite, elle virevolte, allez nous en parler, elle est presque jusqu'à la fin bien.
C'est vrai que d'abord il y a cette injustice, je disais tout à l'heure quand on est enfant on se rend pas compte, mais j'ajouterais que quand on est parfois un peu naïf comme ça, on s'imagine jeune comme ça que la mort, vous savez, elle est un peu à l'image de notre vie, c'est une espèce de chose qui court dans les esprits comme ça, qu'on serait récompensé ou puni dans sa façon de mourir par rapport à ce qu'on a vécu. Or ce que j'ai vu avec ma mère, qui était une femme heureuse, joyeuse, altruiste, c'est qu'elle a une mort qui correspondait pas du tout à sa vie, tout d'un coup elle a été frappée par cette maladie, elle s'est enfermée sur elle-même, ça a été violent, ça a été cruel, et la mort est fondamentalement injuste et cruelle. Mais c'est vrai en même temps qu'il y a ces vieilles personnes qui m'ont toujours fasciné, parce que d'abord j'aime bien pouvoir avec elles faire des sauts dans le temps, dans des époques que j'ai pas connues, parce que aussi je fais aussi une émission à la radio sur la chanson, et j'aime bien aller plonger comme ça dans les vieilles époques du music hall, et j'ai rencontré beaucoup de très vieilles personnes, toujours avec une fascination, et notamment c'est vrai que j'ai voulu ouvrir le livre sur cette note qui est plutôt optimiste, parce que je vais voir Madeleine Millot, qui est la femme du compositeur Darius Milhaud, dans son appartement boulevard de Clichy. Elle va mourir à 105 ans. Elle habite là depuis 1925. On est en l'an 2000. Oui. Elle me raconte toute la transformation de la place Pigalle, l'époque où il y avait des baraques foraines, etc. Elle a une vitalité formidable.
Elle a joué du piano devant Debussy.
Elle a joué devant Debussy. Ah, oui. Elle a été amie de Stravinsky, de Fernand Léger. Mais elle s'intéresse toujours à tout. Elle s'intéresse à mon travail aussi. Elle est très vive. Et cette femme, tout d'un coup, me donne l'impression que, effectivement, le temps est infini et qu'on peut être sauvé de cette malédiction. Puis malheureusement, la chère Madeleine a fini aussi elle-même par devenir sourde et s'enfermer un petit peu et mourir. C'est ça qui est terrible, mais c'est l'idée de ce livre. En même temps, je crois que ce livre est assez drôle par pas mal d'aspects. C'est que malheureusement, les humains ont inventé pour se rassurer quelque chose dans la littérature ou au cinéma qui est la fin heureuse. Ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants. Malheureusement, ça c'est pas la vraie fin. La vraie fin, c'est jamais très très bien, quoi.
Sauf il y a des morts quand même heureuses.
Il y en a de plus légères que d'autres. D'ailleurs, j'évoque celle de mon grand-père dans mon livre.
Mon grand-père, qui est mort jeune, au fond, assez jeune.
74 ans, tout d'un coup, la crise cardiaque,
ça, c'est
voilà.
Formidable.
Ça, c'est idéal.
Et alors, vous montrez, avec cette émission, bien sûr, de radio, mais c'est vrai que vous aimez traquer des destins qui ne sont pas toujours des destins de gens.
De premier plan,
c'est ça qui est fascinant. Et il y a un exemple que moi j'ai trouvé très amusant. Et à la fois pathétique de ce vieux monsieur qui vit en Normandie, qui a connu Trenet, il a connu la terre entière, et c'est un réceptacle de souvenirs pour vous, et c'est bien d'aller le visiter, mais en fait, vous y allez avec votre technicien en voiture.
Pour l'enregistrer.
Pour l'enregistrer. Et en fait, sa vraie ambition, comme quoi, jusqu'au bout, il espère rebondir. Ça, c'est formidable.
C'est à la fois drôle, pathétique et merveilleux en même temps. C'est-à-dire ce, effectivement, ce vieux chanteur proche de Traîné qui a créé lui-même plusieurs chansons célèbres de Traîné, comme La Mer, qui les a enregistrées avant Traîné, parce que Traîné l'aimait bien, lui, il lui passait les, ses musiques, et, mais qui n'a jamais percé. Et il a 95 ans, il est là tout seul dans sa maison à la campagne. Et moi, je vais pour l'interviewer. Alors déjà, je m'aperçois qu'il va vouloir me raconter sa vie en long et en large et en travers. Moi, je suis censé faire une émission d'une heure, mais je sais qu'on va en avoir pour deux jours, parce qu'il a enfin l'occasion de parler de lui-même. Et puis tout d'un coup, ce que je comprends, c'est que c'est même pas son premier but, c'est pas de me raconter sa vie en long, en large et en travers, c'est de me faire entendre la maquette de sa nouvelle chanson qu'il a enregistrée à 95 ans avec un vieil orgue complètement pourri, avec une voix chevrotante. Alors, c'était un peu pitoyable et en même temps, c'est beau, quoi. C'est cette énergie.
Et en même temps, on l'entend quand même dans l'émission.
Oui, j'ai passé, je l'ai passé. Il est mort depuis, le pauvre homme.
Il va dans une maison de retraite et, voilà, et ça s'arrête. Voilà. Une lueur d'espoir finalement pour lui que cette chanson soit passée à la radio. C'est un beau cadeau de l'avoir.
J'étais content de le faire, voilà. Mais vous voyez, c'est effectivement, voilà, c'est ça. C'est un livre sur la fuite du temps, la disparition qui nous rattrape toujours. Mais en même temps, voilà, c'est ce sentiment de la durée aussi
Et même sur ces personnages secondaires, vous dites finalement qu'ils sont font les prémices des vrais talents. Ça, c'est très intéressant que vous les rencontrez.
Oui,
vous montrez bien aussi.
Parce que je me balade parfois dans les... J'aime bien me balader dans les cimetières. Je trouve les cimetières très poétiques et pas du tout angoissants, contrairement à la mort elle-même fait très peur. Mais après la mort, le cimetière, c'est plutôt un lieu qui m'a toujours paru apaisant.
Les chiens, moi, j'ai adoré monter dans les chiens.
Je vais voir les tombes de tous ces personnages qui ont été illustres, plus ou moins, et dont il ne reste rien. On ne sait plus rien d'eux. Il y a juste une tombe un peu pompeuse, comme ça. Voilà. Et en même temps, je me dis, tous ces artistes qu'ont cru être le plus grand, qui sont devenus artistes parce qu'ils voulaient être Jean-Sébastien Bach ou Marcel Proust, et puis finalement, rien, il n'en reste rien. En même temps, ils ont servi à quelque chose parce qu'ils ont préparé le terrain de ceux qui ont vraiment émergé d'une certaine façon. Qu'est-ce que je cite des noms de compositeurs complètement oubliés que j'ai sur des vieilles partitions chez moi parce que j'aime bien garder les vieux objets comme ça. Ouais. Et je me dis, mon Dieu, tout ça, c'est tellement triste. Et en fait, je me dis, mais non, peut-être que Ravel, Debussy n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu monsieur un tel, monsieur machin, qui avait préparé le terrain de cette vie musicale dans laquelle d'autres ont pu grandir et s'épanouir.
C'est beau. Alors, ce regard lucide d'une part, mais il y a aussi cette légèreté, au fond, que votre maman vous a inculquée.
Oui.
Parce que vous racontez qu'elles étaient donc, en fait, les 9 petites filles.
De René Coty. Ma mère était une des 9 petites filles du président Coty.
Et entre ses sœurs et ses cousines, elles rigolaient. Elles rigolaient
tout le temps.
Elles détestaient les honneurs, elles se moquaient des puissants.
Voilà.
Et elles avaient cette faculté d'avoir une distance par rapport au monde. C'est aussi une.
Elles n'arrivaient pas à prendre la vie au sérieux. Et elles rigolaient tout le temps. Alors, je crois qu'il y avait un trait un petit peu de. Au fond, qui était cette bourgeoisie d'avant-guerre, vous savez, à la Sacha Guitry, etc., où fallait toujours, fallait jamais prendre les choses trop au sérieux, fallait jamais affecter trop de sentiments graves, fallait toujours garder une distance, comme ça. C'était une espèce de culture française qui existait à l'époque, et donc je pense qu'elles avaient un petit peu hérité. Mais en plus, il y avait effectivement un truc par rapport au fait qu'elles s'étaient retrouvées avec leur grand-père à l'Élysée, à rencontrer des quantités de têtes couronnées, de gens importants, et elles n'arrivaient pas à prendre au sérieux la hiérarchie sociale. Tout les faisait rigoler. Elles voyaient les petits travers ou les petits ridicules des grands hommes plutôt que de voir leur grandeur. Alors on peut voir ça petit, mais en même temps il y avait comme ça une espèce de fantaisie chez toutes ces jeunes filles.
Une vraie fantaisie. Cette fantaisie vous en héritez. Et la façon dont vous observez le monde d'aujourd'hui, le monde moderne, c'est toujours, vous avez toujours un regard décalé sur les choses. Vous observez tout le temps. Alors déjà, Notre-Dame, un appartement, enfin, vous aviez, je ne sais pas.
J'habite toujours juste à côté de Notre-Dame de Paris, absolument.
Vous voyez ce petit univers se métamorphoser.
Se touristifier d'une façon effrayante.
C'est devenu Disney.
Voilà. En fait, je pense que les gens dans mon quartier, quand ils viennent voir Notre-Dame, ils ne viennent pas du tout voir un monument du Moyen-Âge, ils viennent voir un truc qu'ils ont vu dans un film de Walt Disney qui s'appelle Esmeralda et Quasimodo, etc. Ils viennent voir des images américaines en vrai, comme ça, au cœur de Paris. Et vous savez, maintenant, vous avez les tours. En plus, c'est Paris, Euro Disney, ça va, c'est la même boucle. Et c'est vrai il y a une espèce de transformation de la vie, de transformation de la ville, de transformation de Paris, qui a sans doute des côtés très, très bien. Mais enfin, bon, Moi, c'est vrai que j'aime bien la vie concrète, et c'est vrai que quand je me suis installé là, c'était mon quartier, c'était le quartier de l'Hôtel Dieu. Il y avait les infirmiers, les médecins qui venaient dans les cafés. C'était un quartier très concret comme ça. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, on est complètement voilà dans le Paris touristifié qui s'étend de plus en plus avec ses itinéraires programmés, etc. Les bistrots sont des vieux bistrots français, mais factices aussi puisque vous avez des types déguisés en paysans authentiques. Du Beaujolais devant les entrées des bistrots qui sont là pour attirer les touristes, etc. Enfin, tout ça est une espèce de cirque de fiction de Paris au cœur de Paris. Et voilà, c'est des choses que j'aime raconter d'une façon drôle. J'aime pas cette évolution, mais en la rendant drôle d'une certaine façon, c'est une façon de la sauver, quoi.
Très 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 bien. Alors cette fois avec peut-être des mots encore plus sévères, c'est les Vosges qui est le pays de votre enfance. Hein. Vous parlez très bien du Moulin ou quand vous étiez petit, vous aviez. Puis après il y a une maison de famille. Là aussi, j'aimerais lire un passage où on voit que c'est un monde alors complètement en extinction. C'est déjà ce monde agricole,
ce monde paysan de la montagne,
c'est fini. Oui. Et puis finalement un paysage qui est en train de disparaître complètement. Les normes s'étendent avec l'efficacité d'une armée barbare pour détruire partout où cela subsiste en Europe la cohabitation des hommes et des animaux, mais aussi la cohabitation des espèces qui formaient autrefois la poétique basse-cour. Elle prétend éradiquer la manipulation de produits agricoles sans gants de protection, la culture dans les champs sans combinaison fluo, la circulation du tracteur sans sirène de marche arrière, tout comme l'utilisation d'aliments et de souches non répertoriées. Elles interdisent d'une main et de l'autre s'appliquent à imposer de nouveaux usages qui donnent à la campagne un air de banlieue et aux fermes l'allure de laboratoires carrelés pullant l'eau de Javel.
Oui.
Oui. C'est ça.
Parce que, alors, juste pour expliquer, dans ce livre, en fait, donc, qui est un livre que j'ai écrit un peu à la suite de la mort de ma mère, qui est un livre sur la disparition, je suis allé dans ce que j'appellerais le côté de ma mère dans ma vie, parce qu'elle adorait les Vosges, on avait cet amour en partage, c'était le pays de son père.
Son père qui est merveilleux, qui était médecin, etc.
Et donc, voilà, donc j'ai voulu aller dans ce pays de ma mère, si j'ose dire, et raconter un petit peu la transformation de cette montagne depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et je montre comme ça cette obstination des services d'hygiène en particulier qui veulent détruire les dernières fermes, soi-disant parce que c'est des bombes bactériologiques, alors qu'on sait très bien que c'est jamais les vieilles fermes qui ont créé des catastrophes alimentaires. C'est l'industrie agroalimentaire qui peut parfois créer des catastrophes. Les vieilles fermes, je veux dire, elles étaient au contraire des modèles écologiques de recyclage, etc. Et on veut que tout ça disparaisse parce qu'on est dans un monde qui est hanté par l'hygiène, par les normes, par les marques. Et c'est ça la mondialisation. C'est pas seulement le thème comme ça de la mondialisation. C'est des choses concrètes qui peu à peu modifient l'apparence de tout le monde dans lequel on vit, quoi.
Ça m'a fait beaucoup rire, mais quand vous parlez maintenant de l'espace poubelle. Les gens seraient... Alors moi qui vais beaucoup en Bretagne, il y a aussi maintenant les choses, on se balade avec des poubelles, traverse tout le village.
C'est le dernier rendez-vous public du village. Autrefois, c'était peut-être l'église. Maintenant, c'est les poubelles.
Les poubelles. Mais c'est drôle et c'est ça. C'est une sorte de réglementation qui régit les vies. Vous parlez aussi, je trouve très bien, dans un village, la construction de barrières qui empêchent qu'on puisse s'approcher. Alors peut-être
parce que j'habite un tout petit village de montagne où il y a une très jolie rivière qui s'appelle la Meurthe, qui est assez connue d'ailleurs, qui prend ses sources là et qui descend, qui traverse le village. Et j'ai toujours marché le long de ce petit torrent qui file dans le village où on voit passer les truites, etc. Et un jour, comme ça, nouvelle norme venue de Bruxelles ou de je ne sais où, le maire a décidé, pourtant c'est un maire qui fait plutôt attention à son village, mais là, peut-être n'avait-il pas le choix, en tout cas a décidé qu'il fallait construire des barrières de protection le long de cette rivière où l'eau doit faire 10 cm de profondeur, où il n'y a jamais eu de noyés, de morts ni d'accidents. Mais tout d'un coup, le principe de précaution, c'est encore cette normalisation du monde. Là, ce sont les normes juridiques qui s'étendent partout. Le principe de précaution a fait que la mairie, pour se protéger au cas où quelqu'un viendrait porter plainte parce qu'il serait tombé dans la rivière, ce qui n'est jamais arrivé, on a dépensé tout d'un coup une fortune pour édifier des barrières le long du torrent.
C'est terrible. Hein. C'est, et vraiment, vous montrez là, vraiment, de façon tangible, cette extinction d'un monde. C'est que bientôt, il n'y aura plus.
Voilà.
Bah, c'est extra, que, ça, je trouve ça très, très beau.
J'évoque quand j'étais petit avec mon cousin, donc on était en vacances là-bas, et alors lui, il lisait un livre dont le titre me fascinait, parce que c'était Le Dernier des Mohicans. Mmh. Et je me disais, tiens, c'est extraordinaire, c'est la dernière. Les, voilà, on peut voir disparaître comme ça le dernier représentant d'une tribu qui existe depuis la nuit des temps. Voilà, et je trouvais ça très beau. Et je réalisais pas que moi-même, je commençais à vivre, à mon échelle, la disparition des derniers des Mohicans de cette agriculture de montagne qui aujourd'hui n'est plus qu'un souvenir, il ne reste quasiment plus rien. Moi, j'ai vu passer d'une campagne presque du 19e siècle à aujourd'hui une campagne banlieuisée, touristifiée, mais où tout ce monde-là, tous ces vieux paysans, dont la vie n'était pas forcément drôle, hein, je le dis aussi, mais tout ça a complètement disparu. C'est un pan de la civilisation qui est parti.
Ouais, l'épicier qui vendait voilà. tout, c'est fini.
voilà, voilà, qui débarquait avec son petit magasin ouais. ambulant, etc. Voilà, fin d'un monde, transformation du monde. Voilà, la question n'est même pas de savoir si c'est mieux ou moins bien. Moi, je ne crois pas que ce soit toujours beaucoup mieux. Mais la question, en tout cas, c'est que tout ça avait une beauté. Je voudrais pas qu'on l'oublie. Voilà, je voudrais qu'on se souvienne ce que ça a été. C'était encore tout près de nous et voilà, il ne restera plus rien.
Plus rien. Alors, dans vos sautis, puisqu'on les appelle comme ça, les trois sautis, c'est au fond l'illustration de cela.
Oui.
De tout cela.
Oui.
Mais fait d'une façon, je dis, avec beaucoup
d'assises. Voilà, alors drôle, des histoires drôles, inventées, loufoques.
C'est au fond l'idée de, il n'y a pas de paradis possible. Dans les trois sautis, moi, on va les évoquer. Il y a la première où c'est un personnage qui est
alors là, c'est
sympathique.
Plutôt sur l'idée, d'ailleurs, en écho à ce Paris touristifié, ouais. C'est un type qui est chez lui, qui veut écrire un grand livre sur la musique.
Il cherche le paradis. Il s'est mis en retrait du barreau.
Voilà.
Donc tout d'un coup, il cherche quand même un îlot de paradis dans son appartement.
Voilà.
Et puis c'est pas possible, quoi.
Et puis le réel. Vient le harceler en bas de chez lui parce qu'il y a un musicien de rue qui s'installe juste sous sa fenêtre et qui joue toute la journée le même morceau, pas bien en plus, un morceau de Bach, alors que mon héros lui adore Bach, puis il écrit des grandes choses sur Bach. Et il y a une espèce de lutte entre, comme vous dites, l'idéal, le paradis et la réalité qui monte de la rue avec ce bruit très agressif d'un saxophone soprano, qui est un instrument avec un son très puissant. Et il devient fou, quoi.
Devient
c'est un engrainement kafkaïen à cause de cette musique qui le harcèle jour et nuit. Il essaie de se protéger. Rien n'arrive à arrêter la musique.
Il sera condamné à ça.
Voilà. Et ça fait un peu écho à une chose qu'on retrouve à la fin du livre où j'évoque justement cette transformation de l'île de la cité, mon quartier.
Oui, oui.
Parce que moi, j'ai par exemple dans le quartier, vous savez, aujourd'hui, vous avez des accordéonistes qui sont arrivés en quantité, qui jouent toute la journée. Il y en a quelques-uns qui jouent bien, heureusement, mais malheureusement, c'est pas la majorité.
Oui.
Et alors, ce sont en général, comme on dit, des Roms, mais qui ont compris que pour plaire aux touristes japonais ou chinois, il faut avoir l'air d'un vieux parigot.
Ouais.
Alors, vous avez des Roumains déguisés en Parisiens qui jouent toute la journée la vie en rose devant touristes chinois ébahis et persuadés de voir des vrais titis parisiens d'autrefois. Tout est factice et tout ça passe aussi par ces refrains. Je veux dire, c'est beau une chanson de Piaf, mais vous savez qu'on s'attend toute la journée.
Alors la seconde sautie, on va peut-être pas la décrire. Elle est très drôle aussi.
C'est sur
une leurre. Une tribu et un leurre quand même.
Voilà,
on ne dira pas plus.
Voilà.
Et la troisième, moi que j'ai beaucoup aimée. Parce que, en effet, là, c'est un bout de Grèce, acheté, une île, achetée par un milliardaire de 23 ans.
Oui. Ça pourrait être Mark Zuckerberg ou un genre comme ça.
Un as des réseaux sociaux, il a inventé le liberty.com. Donc, généreusement, il abandonne son métier de milliardaire, mais enfin, il a quand même tous ses milliards.
Oui.
Et il achète cette île, pour 94 ans, je ne sais plus.
Voilà, 99 ans, oui.
Et il va faire vivre à tous les autochtones, à tous les habitants, le paradis éternel.
Voilà.
Plus de voitures.
Il veut recréer un monde protégé, un monde idéal, un monde comme celui que je regrette d'une certaine façon, mais il veut le recréer artificiellement.
Avec des barrières partout. Il est encerclé. Il y a des règles quand même. On n'a pas le droit. Il n'y a pas de réseau pour téléphoner, pour tous les petits gamins adolescents. Et finalement, c'est vicié. Son paradis, il est vicié dès le départ.
Il est vicié. Et les gens le vivent comme une frustration, ceux qui sont sur place. Vous savez, ça m'a été inspiré
C'est une histoire incroyable et très belle, je trouve, finalement.
Ça m'a été un peu inspiré par des séjours que j'ai faits il y a des années dans une île grecque magnifique qui s'appelle Hydra.
Ouais.
Et Hydra, c'est une très très belle île avec un vieux port du 17e ou 18e siècle. Et la circulation automobile est interdite. La plupart des maisons habitent à des riches étrangers, etc.
Ouais.
Et en fait, c'est une espèce de petit paradis sur Terre, mais les vieux Grecs d'Hydra vivent comme une frustration le fait de ne pas pouvoir circuler en automobile, de ne pas pouvoir vendre leur terrain sur le marché immobilier parce que tout est extrêmement protégé, et alors qu'ils vivent d'une façon assez confortable. Mais voilà, il y a toujours ce problème, et comme dans ma nouvelle, voilà, il y a ces adolescents qui mènent une vie calme, merveilleuse, idyllique, mais qui, eux, voudraient pouvoir rejoindre le mouvement frénétique du monde moderne, voilà,
ils
etc.
Ils peuvent pas téléphoner avec leurs copains, ni envoyer des SMS.
Et tout ça leur est interdit par un type qui a fait fortune sur Internet et qui a voulu recréer un
et
paradis
d'autres. Et un jour, il va se faire trucider.
Voilà,
on peut imaginer ça. Il a le bonheur éternel, mais ça marche pas.
Donc tout ça répond voilà, au sujet du livre.
À la possibilité de l'utopie aussi. Il y a quand même ça qui est... C'est là où je trouve que c'est très beau aussi dans votre livre, parce que vous avez tellement ce regard qui va droit au but en disant les choses, et en même temps, il y a la capacité de l'émerveillement. Mais pour des petites choses, et ça, vous en parlez admirablement.
Vous avez raison, c'est très important dans le livre, parce que c'est un livre assez sombre par certains côtés, mais c'est un livre qui est toujours un peu à la recherche des petites lumières qui peuvent donner sens à la vie.
Oui, parce qu'on peut ressasser sans arrêt le malheur, vous dites, ça c'est un choix.
Alors, il y a une première solution contre le malheur, c'est d'abord d'essayer de le rendre drôle, de rendre tous les ridicules de notre époque drôles. C'est une façon de s'en sortir. Mais il y a une autre façon, c'est de goûter les plaisirs simples de la vie. Et c'est pour ça que j'ai fait tout un chapitre qui s'appelle Liste de plaisirs.
Liste de plaisirs, je l'adore.
Où je parle de tous mes enchantements, voilà, quand je suis dans ma petite maison des Vosges.
Voilà, tout simplement. Le matin, en voyant la vallée recouverte d'une couche de neige fraîche.
Voilà.
Reconnaître les traces du renard qui est venu rôder près de la maison. Enfin, il y a toute une liste
merveilleuse. Voilà, lire un vieux numéro d'Historia en buvant mon café dans la maison, regarder les arbres couverts de neige avec ces branches qui ploient et qui leur donnent un peu l'allure de soldats au garde à vous. Tout ça, c'est merveilleux.
C'est vrai que ça vous en parle très très bien.
Et ça, je crois que je dois peut-être un petit peu ça à ma mère aussi. C'est-à-dire que je dirais, souvent, j'ai une pensée, un regard sur le monde assez pessimiste, mais en même temps, j'ai une nature heureuse, quoi. Je me sens bien quand je me lève le matin, j'aime la vie et je la respire volontiers tous les jours comme si ça recommençait. Et ça, c'est une chance que j'ai, parce qu'il y a des gens que j'ai été très surpris quand j'ai découvert que certains de mes amis se levaient déprimés le matin. Moi, je me lève toujours heureux.
Heureux le matin, moi aussi.
Ça, c'est une force, quoi, de pouvoir s'enchanter chaque jour des petites choses qui font le plaisir de la vie, des petites choses épicuriennes. C'est pas l'accumulation de plaisirs extraordinairement sophistiqués, ce sont vraiment les plaisirs concrets qui nous relient à
cette existence. Quand vous parliez des greniers à foin.
Oui.
La poésie de ces greniers à foin.
Oui. Qui malheureusement disparaît. Heureusement, j'ai toujours une vieille fermière au-dessus du lac de Longemer dans les Vosges qui me permet de monter dans son grenier à foin. Et ce sont des endroits de rêve extraordinaires, ces espèces de montagnes, de brindilles, dans lesquelles traînent des vieux objets d'autrefois, des vieilles charrues, etc. Et on a l'impression du monde des secrets. Et je dis dans ce chapitre, j'explique, c'est extraordinaire parce que les enfants d'aujourd'hui découvre en fait ce monde-là à travers les films de fantasy, vous savez, genre Le Hobbit, etc., que moi j'aime beaucoup d'ailleurs, avec ces recréations de villages féeriques, de toits de chaume, de jambons, de tonneaux, etc. Et en fait, ce monde-là, je l'ai connu, moi, il a existé, il est tout près de nous, il existait dans ces petits villages de montagne encore quand j'étais enfant. Aujourd'hui, il a presque disparu, mais aujourd'hui, les enfants croient que c'est presque une fantaisie, une féerie, mais non. C'est un monde qui a existé, qui est tout près de nous.
Qui est tout près de nous et qui existe quand même encore.
Qui existe encore par petits bouts.
Par petits bouts.
Voilà.
C'est ça qui est merveilleux, cette capacité d'émerveillement, de dire j'aime. Vous avez tout un moment où vous dites toutes les choses que vous aimez, finalement.
Ce que
j'aime beaucoup aussi. Je vais le lire. J'aime le matin paisible quand la neige tombe par la fenêtre et que j'aperçois les traces d'un chevreuil. J'aime le feu qui brûle dans la cheminée avec son parfum de résine et ses flammèches dansantes. J'aime me glisser entre les draps pour lire la muse du département de Balzac et ses descriptions animées par le même besoin de sourire de tout. Ça, j'avais oublié ça. Mais j'aime aussi le whisky du soir à la chaleur joyeuse, les volutes de cigarettes chères aux poètes d'autrefois, le vin qui donne meilleur goût à la vie. Et j'absorbe volontiers les fumées de cannabis qui aiguisent les sens et m'invitent à des voyages enchantés en écoutant des musiques inconnues ou familières.
Voilà, je me livre un peu dans ces images, sur tous mes plaisirs.
Et puis aussi, ce que vous montrez très bien, c'est le rythme des saisons. Vous allez avec votre ami Victor, qui est aussi un homme... Vous comparez à un lémurien, et ça, je trouve ça très précieux.
Oui, vous savez, c'est paresseux qui sont accrochés sous les branches et qui font des gestes très, très calmes, comme ça. Il est un peu comme ça.
Oui, et qui s'adapte partout. C'est ça aussi.
Voilà.
Dans une maison, puisqu'il est capable, ça vous le racontez dans les Vosges, d'installer un système où on peut voir des films. Tous les films, ça, c'est formidable.
Voilà. un bon film tous les soirs,
c'est merveilleux.
On a cette chance-là. Vous voyez, je suis pas totalement passéiste parce que ça, je sais que c'est un bonheur de notre époque, ça, voilà.
De pouvoir faire ça. Et puis en même temps, d'aller à Étretat, qui est l'autre partie de votre famille, sur les plages, ou alors vous parlez aussi d'espèces de familles qui ressemblent, elles se ressemblent toutes.
Ce mouvement des générations, parce que comme c'est un livre sur la disparition, c'était important d'avoir quelques scènes, effectivement, que je vis chaque été depuis toujours à Étretat, où on retrouve toujours les mêmes familles.
Ouais.
Mais qui ont toujours vieilli d'un an, et on voit le passage du temps, le passage des générations. On voit les enfants qui sont devenus adolescents, les adolescents qui sont devenus adultes, les adultes qui sont devenus seniors, comme on dit, les seniors qui sont devenus des vieillards et qui se traînent encore jusqu'à la mer. Et chaque année, ça glisse un petit peu d'un groupe à l'autre, comme ça, et c'est à la fois effrayant. Et en même temps, ils ont tous, effectivement, ces petits airs de famille. Alors, il y a les familles, vous savez, c'était comme dans Lucky Luke, il y avait la famille avec les grandes oreilles percées, il y avait la famille avec les grands nez, etc.
Des petites tribus.
Comme ça, qui vieillissent, qui arrivent, qui disparaissent, qui se remplacent les unes les autres. Et il y a quelque chose de très cruel dans ce mouvement du temps et en même temps de très émouvant, de très touchant, de regarder ça sur les galets, dans la belle lumière de la mer à Étretat.
Vous parlez aussi d'ailleurs bien de l'idée de la procréation et de finalement, est-ce qu'il faut faire vraiment la perpétuation de l'espèce ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un livre, il y a un côté révolte dans ce livre-là parce que
dans
peut-être
un monde c'est malheureux, ça c'est
ça
vrai.
Arrive après la mort de ma mère, alors peut-être j'ai un élan de révolte comme ça contre la condition humaine, et effectivement je me dis mais pourquoi est-ce que faire des enfants c'est pas en même temps condamner à mort des êtres qui n'ont rien demandé, est-ce qu'on fait pas des enfants pour se rassurer soi-même tellement on a peur de la mort qu'on préfère refiler le bébé à quelqu'un d'autre si j'ose dire, etc. Est-ce qu'il y a pas tout ça aussi dans le fait alors heureusement les jeunes parents pensent pas à ce genre de choses, mais peut-être qu'ils sont un peu inconscients aussi, etc. Il faut oser parler de tout ça.
Le titre justement, livre pour adultes.
Oui, c'est exactement ça, le sens du livre. C'est-à-dire que ce sont des questions qui deviennent plus aiguës quand on devient adulte. Alors, je sais pas ce que ça veut dire que devenir adulte. Moi, je ressens ça aujourd'hui, assez tard finalement, parce que j'ai une nature optimiste, que c'était un peu à la suite de la disparition de ma mère, etc., que c'est parce que j'ai passé 50 ans et que je sais qu'il me reste moins à vivre que ce que j'ai déjà vécu, etc. Donc voilà, il y a un basculement, il y a une prise de conscience de la fragilité des choses. C'est ça que j'appelle l'âge adulte. Mais il y a des gens qui ressentent ça très jeune aussi, hein.
Oui.
Moi, je connais des gens de 20 ans qui sont hantés par la mort.
Ouais.
Aussi.
Mais la nostalgie, on peut la ressentir très jeune.
Très jeune aussi, voilà.
La nostalgie, bizarrement.
Mais voilà, ce sont des choses qui sont précisées dans ma vie ces dernières années et que j'ai voulu oser les aborder dans un livre qui n'hésite pas parfois à être un peu négatif.
Oui, mais c'est toujours compensé par justement ce que vous alléguez votre mère, cette légèreté et ce rire qui permet de rendre les choses supportables. Puisque bien sûr, que quand on veut être honnête, l'échéance, c'est la vieillesse et la mort, ce qui ne sont pas des choses rigolotes.
Pas très rigolo.
C'est pas très rigolo. Alors, on a chacun notre livre. Alors moi, qui adore Tim Burton, et qui n'ai pas encore vu le nouveau film Miss Peregrine et les enfants en particulier, mais qui a acheté le livre en anglais, je le signale, mais il existe en français, de ce Ransom Riggs, c'est chez Bayard, et c'est tout à fait. Vous devriez le lire.
Ah oui, mais c'est un monde aussi que j'aime beaucoup. Ouais. Du point de vue cinématographique, je ne connais pas les livres de Burton.
Mais... Alors là, ce n'est pas un livre de Burton. C'est un livre d'un dénommé Ransom Riggs. C'est chez Bayard Jeunesse.
Ah oui.
Et c'est un jeune garçon qui a à peu près 16 ans, qui sait que son grand-père a été orphelin et a vécu dans un orphelinat et qui va arriver sur l'île où son grand-père a vécu, qui est dans le Pays de Galles, à peu près. Hein. Et il va découvrir les souvenirs de cet orphelinat. Il y a des photos dans le livre où il y avait des enfants, mais des enfants très étranges, peut-être éternels. Et c'est totalement hallucinant comme livre, comme doit être le film de Tim Burton.
Qui en est tiré, donc.
Oui, c'est inspiré de ce livre, donc, qui est sorti, je vous dis, chez Bayard Jeunesse. Je pense qu'il faut lire le livre en priorité.
Puis les histoires d'îles,
j'adore, d'enfants. Moi, ça me plaît beaucoup. J'ai pas terminé, mais ça me plaît beaucoup. J'irai voir le film après. Mais donc, je pense que c'est un livre à acheter. Il y a, je pense, beaucoup de choses autour du nazisme, puisque le grand-père était juif. Enfin, beaucoup de choses qui sont cachées dans le livre et dans le destin de ces enfants qui réapparaissent. On trouve des photos dans le livre. C'est un livre un peu graphique. C'est très étrange, hein, avec des vieilles photos sépia de visages d'enfants qui font peur, d'ailleurs. Donc c'est un livre pour vous à lire. Alors je sais que vous avez Vous aimez toujours lire.
Ah oui.
Vous parlez du Balzac dans celui-là et de pages de Molière que vous aimez retrouver quand vous avez.
Et je suis toujours aussi toujours un peu à la recherche des jeunes écrivains d'aujourd'hui qui ont un peu un regard social, de l'humour, etc. Et c'est pas si nombreux que ça. Hein.
C'est pas si nombreux que ça. Avoir de l'humour, c'est une qualité très rare.
Voilà.
Faut le dire.
Et je suis très emballé alors par un romancier dont j'avais déjà lu plusieurs livres, qui s'appelle Frédéric Chouraqui. Et là, c'est un roman qui est paru mi-septembre aux éditions du Dilettante, qui d'ailleurs, justement, souvent publie des choses assez drôles, pleines d'esprit. Ça s'appelle Les Nuits de Williamsburg. Williamsburg comme le pont de New York. Et alors, Frédéric Chouraqui, c'est vraiment un des écrivains les plus drôles d'aujourd'hui. Il a une fantaisie, c'est complètement loufoque. En fait, c'est l'histoire, ça commence dans le Marais à Paris. Le narrateur est un homo barbu, mais il en a marre de tous ces homo barbus autour de lui. Ouais. Il trouve ça insupportable, cette espèce de style de vie hipster complètement, vous savez, stéréotypé, oui. Etc.
Tout le monde sort.
Et voilà. Et alors il parle avec ses parents, etc. Et puis finalement, il décide. Il n'a pas un rond et il décide de partir à New York pour retrouver la vraie vie de bohème, parce qu'il adore les beatniks, ouais. Et il veut retrouver la vraie vie de bohème dans le quartier branché de Williamsburg à Brooklyn. Et là, il va aller de galère en galère. Il va se retrouver à nouveau dans des milieux un peu sordides parce que la vie est dure là-bas. Il va être recueilli par une fiancée juive, mais le père va vouloir l'entraîner dans une chose très religieuse qui lui convient pas non plus, etc. Mais c'est d'une drôlerie. Vraiment, c'est à mourir de rire.
Je le connais pas.
Les nuits, il avait déjà fait il avait déjà fait.
Bon.
Par exemple, j'avais beaucoup aimé un autre livre de lui qui s'appelait La guerre du Kippour, où il venait présenter sa fiancée Goy à ses parents. Mais c'était très, très, très drôle. Frédéric Chouraqui aux éditions Le Dilettante. Allez-y, tout droit.
Frédéric Chouraqui aux éditions Le Dilettante. Très bien, ça je veux dire. Et vous avez d'autres livres?
Ah oui, alors.
Vous n'avez peut-être pas tout montré.
Noël Herpe, écrivain très talentueux, un petit livre qui s'appelle Dissimulons, où il raconte l'histoire invraisemblable quand il était prof à l'université de Caen, de son amitié avec un collègue, qui avait pour le goût de s'habiller en femme. Mais c'est très, très fin, très drôle, une réflexion sur la vie. Et puis alors, dans un genre plus mondain...
Ah, mondain, c'est peut-être...
People Bazaar, de Jean-Pierre de Lukovic.
Ah, c'est peut-être pas mal quand même.
C'est formidable. Ah, oui. C'est une évocation du Paris... du Paris chic, élégant, un peu bohème, des années 50-60, avec des tas de rencontres, de portraits, etc. C'est paru chez Séguier, Souvenir d'un infiltré dans le beau monde. Alors c'est très amusant. Et il y a des jolies photos, vraiment, ça vaut la peine.
Jean-Pierre Lukovic, ça peut être très amusant, People Bazaar. Ouais, bah, c'est bien, parce que vous êtes éclectique dans vos goûts. C'est quand même ça qu'il faut dans la vie.
Je pense, oui, j'espère, arriver. En tout cas. Oui, oui.
Alors moi, je vais encore lire un passage de votre livre, pour terminer, parce que... Il y en a plein à lire. Donc, vous parlez de tous vos petits péchés, whisky et autres. Je prie donc ceux qui lisent ces lignes et qui me survivront, pour le cas où je devrais endurer le calvaire du jouisseur puni, de ne jamais me plaindre, ni s'imaginer que j'aurais été une victime, privée d'une vie meilleure par mes mauvaises habitudes. Car tous ces plaisirs embellissent une existence où j'ai besoin du naturel comme de l'artifice, du modéré comme de l'excès, de la sobriété comme de l'ivresse. La mort, d'ailleurs, nous réserve bien d'autres surprises. Elle sait nous surprendre par un brusque AVC, ça c'est pas mal, qui nous réduit soudain à l'état de légumes, c'est moins drôle, entre les mains d'un entourage atterré, incapable de savoir si nous préférons vivre ou mourir, à moins d'avoir la chance toute simple de se faire renverser en traversant la rue. Le mieux serait donc encore de vivre centenaire, ça je suis pas sûre, et de m'éteindre doucement comme mes chères vieilles chanteuses, mais c'est loin d'être gagné. Ouais, non, c'est moi, la meilleure mort, c'est votre grand-père, brusquement, pas trop vieux, encore bien, à la montagne, dans le lieu qu'il aimait.
Mais c'est vrai qu'un peu par superstition, on n'ose pas écrit au Sacré-Cœur de l'écrivain, tout le monde se pose ce genre de questions. Comment je vais mourir, ça, etc. Mais comme écrivain, souvent on se retient, on se dit « Ah non, je ne veux pas que j'écrive là-dessus, superstition, ça fait peur. » Puis là, je me suis dit « Tiens, dans ce livre, je vais oser aussi écrire sur la vie, mais aussi sur la mort. »
Et où est-ce que vous seriez enterré ?
Ah bah dans mon petit village des Vosges, bien sûr, à côté de l'église, avec ces merveilleuses vieilles tombes qui émergent dans la neige l'hiver. Là, il y a une poésie.
Et le cimetière des chiens, il est où ?
Le cimetière des chiens, il se trouve à Asnières. J'en parle. Ah oui, c'est un endroit merveilleux, ça, parce que... C'est plutôt une chose un peu 1900, comme ça. C'est un vieux Paris disparu, mais voilà, c'est tous ces gens qui sont allés là-bas enterrer leurs animaux, leurs chers animaux, déçus par les humains, jamais par les chiens. C'est une des phrases qui revient le plus souvent sur les tombes de ce cimetière. Ou alors, pour un Saint Bernard, il sauva la vie à 40 personnes, il fut tué par la 41e, la cruauté de l'espèce humaine.
C'est bien d'être au fond d'aimer son chien.
Voilà, oui, pourquoi pas.
C'est un des émerveillements de la vie.
Et tout ça, voilà, sont les mystères de la vie, en tout cas, que j'essaie de saisir à ma mesure.
Mais c'est vrai que dans la littérature, peut-être plus anglo-saxonne, on trouve cet humour. Mais je trouve que dans la littérature française, actuelle, il n'y a pas.
Pas beaucoup, c'est vrai.
Votre écriture, du tout.
C'est vrai que les Anglais, les Américains ont souvent plus de distance et de fantaisie.
C'est un monde de drame.
Ouais, c'est vrai.
Ça va dans un sens, mais pas...
L'introspection psychologique, un peu pesante parfois, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, encore que, je sais pas, même s'il a des côtés très sombres, chez Houellebecq, il y a beaucoup d'humour.
C'est vrai, il aime les chiens.
Il aime les chiens.
C'est peut-être pour ça qu'il a de l'humour. Il arrive à se dégager de ça. En tout cas, c'est... Ce que je retiens de votre livre, beaucoup de choses, mais c'est cette capacité d'émerveillement. C'est de se dire qu'au milieu de la tempête, du marasme, de beaucoup d'horreurs, et il y en a que vous ne citez pas, actuelles, il y a des petits îlots, justement, qu'on voit mieux parce qu'on est conscient du reste.
Exactement,
je pense que c'est ça, la force, finalement. C'est d'arriver à être conscient de tout ce qui se passe autour de vous pour pouvoir voir ce qu'il y a encore à voir dans ce monde-là.
C'est ce que j'aimerais, en tout cas.
Ça, c'est un livre vraiment à lire, parce que je l'ai beaucoup aimé. Il est très fort, il est original. Il a cette force de la lucidité. Et puis, je trouve que pour votre mère, c'est un magnifique hommage. Vous en avez gardé beaucoup, votre mère, dans la légèreté, dans le rire et dans l'insolence. Et puis, dans l'art de regarder les autres. Voilà, donc Benoît Duteurt, livre pour adultes, chez Gallimard. Merci.
Merci beaucoup.